4 euros.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pouce d'épinard. Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Bien le bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Nous voilà de retour tous ensemble au studio Coluche. Et pour la première fois depuis 3 mois, nos invités seront là en chair et en os et on est ravis. Il est revenu de son sud-est, il est au cœur de notre dossier sur la réouverture des restaurants. Remontée du sud-est, mais remontée tout court, Yves Candebord est avec nous.
Ah mais j'ai rechargé les batteries Laurent, je suis en grande forme.
Mais quelle mine, il est affûté, vous verrez ça sur europe1.fr, un bronzage, une ligne de jeune homme. Mais ça vous a réussi, hein, dites donc. Hein.
Mais écoutez, ça a été un joli moment parce qu'on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup pensé, on a beaucoup créé de recettes aussi. Ça fait du bien de temps en temps de s'arrêter. C'était la première fois en 40 ans de carrière que je m'arrête 2 mois et demi.
Une petite pré-retraite, quoi.
C'était un stage. On va dire que c'était un stage, Laurent. Mais c'est pas mal, honnêtement.
Les températures se sont rafraîchies. Il sort la bouteille de rosé pour faire remonter le thermomètre. C'est Olivier Pouls. Bonjour, Olivier.
Bonjour. Et c'est vrai que j'ai moins la mine apaisée, bronzée que notre ami Yves, quand même. Hein. Ah, mais c'est peut-être parce que je suis resté plus longtemps dans la cave.
J'ai surtout la Bourgogne, qui a moins de soleil.
Nous allons aussi cuisiner de belles fèves et nous intéresser à la sensualité de nos aliments, les textures, les odeurs, les parfums avec Caroline Mignot. Et puis la comédienne bonne vivante Camille Chamou va partager ses bons moments à table avec nous. Et le plat du jour sera Made in Normandie, sans oublier Marion Sauveur et son journal de la cuisine, bien sûr. Et Jean-Luc Petit-Renaud qui va nous mettre à table au restaurant. Eh bien allons-y, sortons les couverts les amis. Eh bien voilà, les restaurants enfin viennent de rouvrir, les terrasses à Paris uniquement pour l'instant, donc on va en parler parce que ça fait débat, mais ça n'empêche pas de retrouver de belles assiettes aussi à la maison, parce que vous êtes nombreux, hein, amis auditeurs, à avoir conservé ces beaux réflexes du fait maison et de la cuisine du quotidien acquis pendant le confinement, donc ça c'est formidable. Quel est votre goût de la semaine ? Tiens, Olivier Pouls.
Ben, il est en terrasse, évidemment, puisque j'ai voulu moi aussi retrouver la joie de repartir au restaurant, mais malheureusement une joie d'un peu courte durée. Et j'ai un petit goût amer parce que j'y suis allé mercredi soir. Et qu'est-ce qui s'est passé mercredi soir sur les coups de 21h alors que nous étions tranquillement attablés, un orage. Et là, excusez-moi du mot, mais ça a été le bordel. Et je pense que cette ouverture uniquement des terrasses à Paris est quelque chose qui est une fausse bonne idée.
On va en reparler tout à l'heure. On va en reparler avec Yves Candebord et puis d'autres chefs au téléphone avec nous. Votre goût de la semaine, Yves Candebord ?
Eh bien, mon goût de la semaine, moi, c'est un supermarché bio en ligne, Aurore Market. Je me suis habitué pendant le confinement à leur commander des produits et j'ai trouvé ça très très pratique parce qu'en plus on a la chance d'avoir des prix vraiment très intéressants comme il faut aucun marketing. Il faut savoir qu'en général un produit c'est 25% de marketing.
Le prix oui.
C'est très pratique et puis pour finir Laurent, ça me permet d'aller tranquillement faire mes courses, de prendre que mes produits frais chez mes artisans préférés, le restant... J'ai pas besoin de porter le papier toilette, j'ai pas besoin de porter la lessive, j'ai pas besoin de porter l'épicerie sèche. Elle arrive à la maison toute seule et je trouve ça très pratique.
Eh ben oui, je reconnais bien votre sens pratique. Mon goût de la semaine, moi, c'est celui des cerises. Voilà, ça y est, elles sont là, les premières cerises. Alors, les prix fluctuent en fonction des régions. On va en parler la semaine prochaine, tiens, de ça, des cerises et des prix, parce que c'est un vrai sujet de débat. Mais voilà, une belle poignée de cerises. C'est pas la peine d'en acheter des tonnes hein, pour se faire plaisir au départ. Mais là, je trouve que c'est un vrai bonheur parce qu'elles viennent de Provence, effectivement, et elles sont cueillies à maturité. Donc voilà, elles sont bien juteuses, joufflues et charnues. Les premières Bigarro sont parmi nous. Alors, on en parlait, les restaurants ont rouvert. Ça y est, c'est le retour d'un art de vivre qui nous a tant manqué, comme celui des marchés qui, eux, ont rouvert un peu avant. Eh bien, rendez-vous justement au marché des Enfants Rouges à Paris. C'est le plus vieux marché de Paris, hein. Dans le 3e arrondissement. Il a plus de 400 ans. C'est un lieu qui conjugue le marché et les terrasses. Alors, amis auditeurs, comment avez-vous fêté ces retrouvailles ? Vos réponses au micro masqué de Julien Matt.
On revit, hein. On avait faim, ça fait 75 jours qu'on mange plus dignement. On a pris du couscous, donc nous c'est couscous merguez et puis une entrée végétarienne. Tomate, concombre et une crêpe marocaine.
On a une spaghetti alle vongole et un pesto rosso. Comme boisson, vous avez choisi quelque chose ?
C'est très agréable de pouvoir à nouveau goûter une cuisine qui ne soit pas la sienne. En vrai, on a mangé des pâtes pesto rosso, mais c'est des vraies pâtes cuisinées, c'est pas les pâtes au beurre de la maison. Donc
Pour moi, c'est doublé du fait que c'est les premiers vrais jours de congé que j'ai depuis 75 jours. Je suis soignant. Ça fait du bien de retrouver une vie, tout court.
De voir du monde et puis aussi de partager une relation avec le service et les cuisines.
J'ai un cabillaud, s'il vous plaît.
Je suis trop content de venir retourner au boulot. Je suis trop content de revoir les clients, l'agent. Le premier plat que j'ai servi aujourd'hui, c'était un friture de calamar gambas.
Vraiment une ambiance particulière, je pense. Émouvante pour tout le monde.
Oui, c'est vrai, il y avait de l'émotion. C'était le premier service mardi midi. Et je me trouvais en plus un petit comptoir japonais qui est juste là. Et c'est vrai qu'il y avait une vraie émotion. Ces gens qui retrouvaient les serveurs, les restaurateurs, c'est ce que vous avez dû vivre en rouvrant votre terrasse, Yves Condebord.
Totalement. De voir les clients venir à nous avec le sourire et nous dire simplement merci d'être là. Ça nous a mis les larmes aux yeux. Voilà. On leur disait non, c'est nous qui vous disons merci. Ils ont fait l'inverse. Et c'est vrai que ça a été une ambiance, une réunion pour dire, j'ai envie de vous dire, avec tous nos meilleurs amis, avec toute notre famille.
Des retrouvailles.
Voilà, avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Et moi, je dis vraiment merci à tous les clients qui sont venus dans tous les restaurants de France, voilà, venir nous soutenir dans cette difficulté.
Et merci à tous les restaurateurs, au personnel, aux serveurs aussi, aux cuisiniers, de respecter effectivement ces gestes barrières et de porter le masque et tout ça. Donc c'est vrai qu'on va en confiance au restaurant. Donc on va en reparler, ce sera notre dossier du jour tout à l'heure. Alors sur les étals des marchés, vous avez probablement aussi croisé des fèves et des févettes, leurs petites sœurs. Alors on vous emmène les déguster juste après ça.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. 11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Vous le savez, avant la cuisine, il y a l'agriculture. Chaque samedi ici, nous vous faisons découvrir des maraîchers, des éleveurs, des producteurs, des pêcheurs. Et bien aujourd'hui, on vous emmène dans le midi déguster une petite perle végétale, douce et fruitée, courbée, délicate. C'est la fève, les amis. On est en plein dans la saison. Alors prenons-en de la graine et profitons-en. On va la découvrir, puis ensuite on va bien la cuisiner. Vous qui étiez dans le sud-est, Yves Condebord, ça fait vraiment partie des petits légumes verts que vous avez eu joie et plaisir à cuisiner, ça.
Oui, totalement. C'est un des légumes verts qu'on attend peut-être le plus parce que c'est vrai, c'est une typicité très particulière. Et j'ai eu la chance d'avoir les premières, donc les fameuses petites févettes. Et moi, j'ai une recette qui me devient de mon papa. Alors qu'il a 87 ans, donc je le questionnais pour le garder un peu, je dirais, voilà, dans l'émotion du quotidien. Je lui dis, comment tu les fais? Il me dit, tu prends de la graisse de jambon, tu fais fondre ta graisse de jambon, les petites févettes sans les éplucher, tu les jettes dedans, à peine une minute, un peu de sarriette, et tu dégustes à l'apéritif. Et c'est vrai, jambon, graisse de jambon, sarriette et les petites févettes, c'est juste remarquable.
Et c'est la saison et c'est simple et efficace, comme on dit. La fève qui appartient à la grande famille des légumineuses qu'on aime tant ici, hein, Olivier Pouls.
Oui, mais contrairement aux haricots blancs, aux rouges ou aux lentilles, par exemple, en fait, elle est un peu à cheval entre ce qu'on pourrait appeler un légume frais et une légumineuse de réserve. Bon, elle est riche en fibres, protéines végétales, comme tous les membres de la famille, mais elle a ce petit goût aussi particulier, herbacé, cette petite touche de chlorophylle qui la distingue, et qui, moi, je trouve, la rapproche plus du légume frais que de la légumineuse.
Ah bah oui, mais les légumineuses peuvent être fraîches. Hein, là, le petit pois est une légumineuse aussi, quand il est sec, il devient le petit pois cassé, mais les légumineuses peuvent être fraîches ou sèches. Hein. Alors, on va retrouver justement, tiens, Frédéric Michel, qui est le correspondant d'Europe 1 dans le Midi, il a trouvé la fève chez Jean-Louis Capan, maraîcher à Castagnier près de Nice. Dégustation et différence entre la fève et la févette au milieu du champ.
Nous, on les cultive là dans le littoral, mais à l'époque, les anciens les cultivaient sur les restanques. Le temps de févette, ça dure 15-20 jours. Après, on passe dans la fève et lorsqu'elles sont fèves, ben après, c'est fini. Févette, c'est toute jeune et fève, elle est adulte. Févette, il faut qu'elle soit petite comme ça, vous voyez.
Ouais, c'est là, la rigueur, oui.
On enlève la cosse.
C'est à la taille d'un gros petit pois.
Voilà, et la fève d'une noix, voilà, exactement. C'est Nice, ouais. Et là, ça se termine, regardez, je ne me reste plus que ça, hein. J'ai fini. La fève se consomme cuit, en potage, en velouté. La févette se consomme crue, pour faire les pains bagnats, les premières crudités de la saison.
Et la févette, elle fait partie de la traditionnelle salade niçoise.
Salade niçoise, exactement. C'est que du cru, hein.
Vous les aimez comment, vous?
Moi, je les aime autant les premières en crudité, comme après, en fin de saison, cuites, avec de l'ail, du persil, un peu tiède, l'huile d'olive, et c'est super bon.
Et ben voilà, comme vous, comme Yves Condebord, de la simplicité pour profiter des févettes et des fèves. On les retrouve aussi dans le pan bagnat, hein, c'est pratiquement les mêmes ingrédients que la salade niçoise. À propos de la fève, on enlève la peau, bien sûr, mais la févette, vous disiez que vous n'enleviez pas la peau, Yves Condebord.
Non, hein. Non, quand c'est des toutes petites févettes, il ne faut surtout pas enlever la peau, parce qu'elle elle est vraiment très, très douce. Quand elle passe à la grosseur de la fève, c'est vrai que la peau est un peu amère.
Ah oui, très amère.
Très amère. Donc là, par contre, c'est juste, Laurent, une eau bouillante salée. Une fois qu'on vous avez écossé, vous prenez vos fèves, vous les jetez dedans. Mais vous les jetez dedans, même pas 10 secondes. Vous les rafraîchissez et après, voilà.
Avec le pouce,
oui. Avec le pouce, on les ouvre et en appuyant entre le pouce et l'index, on fait glisser la fève qui est bien verte.
Et là, on peut les mettre avec une salade de chèvre frais, par exemple, ou dans une quiche. Moi, j'aime bien les mettre dans une quiche avec du chèvre frais, des asperges vertes, c'est encore la saison. Comment vous les aimez, Olivier Pouls?
Moi, les fèvettes, j'aime bien les manger effectivement crues en salade et je les associe à un agrume. Par exemple, du pamplemousse, on prend des petits morceaux de suprême de pamplemousse qu'on met dedans, une herbe qu'on va trouver dans le jardin, la menthe fraîche, par exemple, c'est magnifique, un petit trait d'huile d'olive, sel, poivre, et on a un jeu de texture et de saveur que je trouve vraiment fantastique. J'adore ce côté chlorophylle.
Si on pousse au-delà de nos frontières, on se rend compte que le lupin, vous savez, c'est une plante cousine de la fève. Eh bien, ça se mange aussi. C'est une plante des champs chez nous. Le lupin, c'est ce qu'on appelle la fève jaune orangée en Espagne, au Portugal. Ils appellent ça au Portugal, je crois, les tremosos.
Je suis pas sûr
de l'accent. Et on mange ça à l'apéro comme ça.
Ouais, c'est à l'apéro. Et souvent, on ramène un peu d'acidité dessus. Ça peut être un jus de citron ou quelques gouttes de vinaigre. C'est très agréable.
La fève a une valeur sûre aussi du rayon surgelé. Hein, faut se dire la vérité. Ça permet de prolonger le goût du printemps et de l'été facilement. Et là, c'est un produit brut. Encore une fois, on milite aussi pour les produits bruts surgelés qui permettent de faire la cuisine au quotidien.
On peut vite faire une recette. C'est prendre un jus de tomate. Là, vous prenez un petit jus de tomate sans sucre. Vous le faites bouillir. Vous jetez dedans des fèves, des crevettes décortiquées, une ébullition. On coupe du coriandre, une pointe d'huile d'olive. Et de suite, vous avez une petite cassolette.
Il est revenu remonter à bloc. Hein.
J'ai l'impression qu'il a passé son confinement.
Les recherches sont là. Il est au taquet, Yves Cordebord. Et puis une autre façon de déguster les fèves, c'est d'aller au restaurant. Vous le savez, ils ont rouvert. Alors comment se passe la reprise? Les menus ont-ils changé? Quel avenir pour les restaurants gastronomiques? On en parle juste après ça.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci à vous d'écouter la table des bons vivants. Alors après avoir redécouvert le plaisir de faire le marché, nous retrouvons le plaisir de se restaurer. Et à l'origine, tiens, écoutez, hein, le mot restaurant désigne le lieu où l'on se restaure. En fait, on reprend du poil de la bête, on en a besoin pour le corps et l'esprit. Et c'est exactement ce qui se passe avec la réouverture des restaurants partout en France et uniquement les terrasses à Paris. Alors avant de parler justement de cette réouverture et du moral des restaurateurs, c'est l'heure de retrouver quelqu'un qui a toujours le moral et le sourire. C'est Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Bonjour Marion.
Elle termine son télétravail, elle sera bientôt de retour parmi nous. Marion, on va écouter les titres de votre journal de la cuisine. Du vin dans le gel hydroalcoolique, des produits français pas trop chers et les consommateurs européens prêts à changer leurs habitudes. Voilà le menu. Ça y est Marion, le vin français est transformé en gel hydroalcoolique.
Et oui, depuis hier, le vin non vendu en raison de la crise sanitaire a commencé à être distillé pour faire de la place dans les caves avant les prochaines vendanges. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, avait annoncé ici même une distillation de crise.
Exactement.
Cette mesure exceptionnelle, financée sur fonds publics européens, devrait permettre la distillation de 2 millions d'hectolitres.
Alors Didier Guillaume, justement, souhaite que l'agriculture française puisse nourrir la masse, ce sont ses mots.
Oui. Oui, le ministre de l'Agriculture veut ouvrir le débat pour que les familles avec 3 enfants puissent acheter des produits issus de l'agriculture biologique. L'enjeu, a-t-il dit cette semaine, est que les produits français ne soient pas trop chers par rapport aux produits étrangers. Par exemple, le prix du concombre français est 3 fois plus élevé que le concombre danois. Mais... Didier Guillaume a par ailleurs invité les Français à sortir, à aller au restaurant en respectant les gestes barrières. Et on va parler de leur réouverture et de la manière dont ils se réinventent dans quelques instants. Laurent.
Exactement Marion. Et pour l'environnement, 2 Européens sur 3 sont prêts à changer leurs habitudes alimentaires quand même. Hein.
C'est ce que révèle une étude du Bureau européen des unions de consommateurs. 40% déclarent avoir ainsi réduit ou cessé de manger de la viande rouge pour réduire leur impact sur l'environnement. Les aliments alternatifs aux protéines animales qui les attirent le plus sont les steaks de légumineuses. Le prix et le choix limité de l'offre alimentaire durable freinent tout de même leurs envies.
Eh bien merci pour ces développements comme on dit. Merci Marion Sauveur et
à la semaine prochaine.
Avec plaisir également.
Au revoir Marion.
Alors depuis mardi, les restaurants sont rouverts, les terrasses uniquement pour l'Île-de-France. Comment se passe cette réouverture historique depuis le début de la semaine? Du petit bistrot de quartier au restaurant gastronomique régional, comment les chefs s'en sortent? On vous en parle ce matin, c'est notre dossier. Et la parole évidemment à vous Yves Condebord. On entendait les clients en terrasse au début de l'émission. Il y a eu de l'émotion dans ces retrouvailles, mais il y a aussi de l'impatience. Vous avez d'ailleurs co-signé hier avec Guy Savoie dans le Figaro une lettre ouverte où vous enjoignez en fait les pouvoirs publics à quand même assouplir tout ça pour qu'on puisse retourner au restaurant partout normalement en Île-de-France, entre autres.
Oui, oui, parce que c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, de retrouver la clientèle, certes, là, c'est quelque chose pour nous d'émotion exceptionnelle, mais bon, faut-il avoir la chance d'avoir une terrasse, parce qu'il y a quand même beaucoup de restaurants à Paris qui n'ont pas de terrasse, et là, il y a une vraie frustration, une forme d'incompréhension. Personne n'arrive à comprendre pourquoi on nous interdit de pouvoir reprendre de l'activité professionnelle normale, tout en respectant les normes mises en place de point de vue sanitaire.
Et il faut quand même se dire qu'on est à Paris et qu'on n'est pas à Marrakech. Et donc, il y a des aléas météo qui sont, et on l'a vu cette semaine. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez ouvert une terrasse, mon cher Yves. Vous avez le personnel qui est là. Vous avez les frigos qui sont remplis. Mais vous n'avez pas la météo. Alors, on fait comment?
Eh ben, c'est le problème. On perd une fois de plus de l'argent. Comme je dis souvent, on est en train de creuser notre tombe. C'est quand même très, très délicat parce que les charges fixes, on sait très bien qu'elles sont en place, qu'on soit ouvert ou fermé. Ben, elles ne bougeront pas. Il faut les assumer. Tandis que là, on se retrouve en situation qu'on a repris l'ensemble du personnel, qu'on a rempli nos frigos, qu'on a préparé la mise en place. Mardi, ça se passe bien. Mercredi, ça commence déjà à dérailler. Et hier, c'est une journée catastrophique. Et aujourd'hui, ce sera sans doute identique. Donc, on a ce problème de rentabilité. On ne peut pas continuer à fonctionner en demi-teinte. Il faut que les pouvoirs publics prennent une décision. Voilà, je le redis, qu'on nous impose le respect des règles, c'est aucun problème, mais laissez-nous ouvrir nos restaurants.
Mais vous demandez quoi? Qu'on puisse retourner au restaurant à l'intérieur, en fait?
À
c'est
l'intérieur,
ça, hein,
qu'on rouvre les restaurants, simplement.
Dès maintenant.
Voilà, en mettant l'espace qu'il faut entre les gens, dès maintenant, qu'on laisse les restaurateurs qui veulent ouvrir, parce qu'il y a certains restaurateurs qui ne pourront pas respecter les règles, donc qui préfèrent rester fermés, parce que c'est des gens responsables. On est responsable de la restauration, laissons les gens qui ont envie, qui ont la possibilité de le faire, de pouvoir accueillir les restaurants, dans le respect, je le redis, des règles.
Oui,
on les connaît.
Parce que les restaurateurs ont eu le temps de former justement leur personnel. On le voit, hein, moi je suis retourné au restaurant pratiquement tous les jours là, depuis mardi. Eh bien, on le voit effectivement, le port du masque, les gestes barrières, la signalisation pour aller aux toilettes. Enfin voilà, tout est fait dans les règles de l'art. Donc il n'y a pas de raison, clairement, pour qu'il y a un danger quand les règles sont respectées.
Non, non, complètement. On a tous repris notre personnel. On les a formés, j'ai envie de vous dire. Ils étaient déjà quand même pratiquement formés à 90% par rapport avec les règles HACCP. Aujourd'hui, voilà, faut être peut-être plus attentionné, mais il n'y a aucun problème. Je le dis, Laurent, nous ne sommes pas des enfants.
Oui.
Voilà, nous sommes des gens responsables, qui sommes des professionnels, qui tenons des établissements depuis des années et des années. Il faut impérativement laisser les gens pouvoir travailler. On ne demande que ça. Laissez-nous travailler.
Et puis la réouverture des restaurants représente le symbole vraiment d'un retour à la vie, d'un retour à la normale. Alors on va en parler dans la suite de notre dossier juste après la pause. Quel avenir pour les tables gastronomiques? Effectivement, ça c'est une vraie question. Et puis il y a de nombreux petits restaurants qui ne vont pas pouvoir rouvrir normalement non plus parce qu'ils ont des problèmes financiers, des problèmes de structure. Donc on va vous parler de la réouverture de ces restaurants. On en parle juste après ça.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Ça y est, c'est officiel. Hein, depuis le début de la semaine, les restaurants rouvrent les uns après les autres. On a parlé des restaurants parisiens, mais allons faire un petit tour au Vert. Tiens, à l'auberge du Vermont, à Bechep, dans les Flandres. C'est l'adresse de Florent Laden. Vous le connaissez, c'est un ancien Top Chef. C'est un chef engagé vraiment en faveur du local qui s'est adapté depuis le début de cette crise. Il est avec nous au téléphone. Bonjour Florent Laden.
Bonjour.
Comment
bonjour
ça Florent. Se passe?
Bonjour.
On a parlé de vos belles initiatives, hein, parce que c'est vrai que vous avez été un des premiers, par exemple, à continuer à donner à manger à vos clients qui étaient chez eux confinés grâce à des produits de légumes frais et d'épicerie que vous pouviez leur livrer.
C'est ça, pendant 2 mois, en fait, dès le lendemain du confinement, on a fait de la vente de paniers de légumes, de produits locaux, à prix coûtant, sans faire de bénéfices dessus. Et on continue à faire ça un petit peu, vu qu'on n'a pas la capacité d'accueil maximale au Beerbuck, donc on continue à Lille à faire notre épicerie locale.
On parlait de la frustration des restaurateurs parisiens de ne pas pouvoir accueillir les clients à l'intérieur des restaurants. Comment ça se passe alors chez vous concrètement? Le respect des gestes barrières, le lavage des mains, le port des masques, j'imagine évidemment pour tout votre personnel. Les clients n'ont pas eu peur de revenir en fait.
Alors nous en fait on peut accueillir quasiment le même nombre de clients à l'auberge ici au Vermont parce que les tables sont déjà espacées en temps normal, donc au final tout va bien. On suit les règles, il n'y a pas le choix, c'est la loi, donc il faut la suivre.
Faites-nous saliver avec un plat du jour tiens pour ce samedi.
Là, on a des coffres de canards qui sont en train de cuire à la cheminée au feu de bois. Là, on les laque dans un jus de rhubarbe. C'est servi avec des lentilles germées qui viennent de l'Eufrancook, qu'on saute au gras de canard, de la purée de rhubarbe, de la rhubarbe crue et de la coriandre. c'est la Flandre, mais avec des accents très, très asiatiques, et c'est superbe.
Eh ben, restez ouverts, ouais. On arrive, bon. Hein, on finit l'émission,
c'est bon,
et on prend la route. Merci beaucoup, Florent Ladène.
À très vite.
Et joyeux anniversaire avec un petit peu de retard, c'était hier. Vous fêtez-le bien avec vos clients.
Merci beaucoup, toujours.
Au revoir, Florent Ladène. Et on salue tous les chefs qui nous écoutent, évidemment, partout en province et qui ont pu retrouver ce même plaisir que Florent, réouvrir leur restaurant. Alors, il y a une question qui se pose, Olivier et Yves, quand même, c'est l'avenir des tables gastronomiques. Effectivement, privées d'une clientèle internationale, on voit que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et qu'il y a effectivement des restaurants qui ne rouvrent pas pour l'instant. Je ne parle même pas des restaurants de palace qui, eux, vont rouvrir peut-être qu'en septembre ou en décembre.
Ou en fin d'année, oui.
Ou en fin d'année. Mais on peut prendre l'exemple, par exemple, d'Alexandre Bourdas à l'auberge au restaurant Sakwana à Honfleur, qui a un 2 étoiles. Et qui a dit qu'il allait changer son style de cuisine suite au confinement. Il va se tourner vers une cuisine familiale.
Mais il n'est pas le seul. Hein. Il y en a d'autres qui ont déjà annoncé qu'ils ne reviendraient pas dans la haute gastronomie, le 2 ou le 3 étoiles, parce que probablement, pendant longtemps, la clientèle pour ce type d'établissement risque de se faire rare. Et puis je pense aussi que ce confinement les a fait réfléchir un certain nombre de choses et au sens même de ce métier, aux priorités qu'on a. Effectivement, quand on est grand chef, on a envie de nourrir, on a envie de partager, mais on a peut-être aussi envie d'accueillir le plus large public possible. Et il faut bien le dire, ces restaurants étoilés sont extrêmement segmentants parce qu'ils sont très chers.
Bien sûr.
Et puis je pense aussi que pour l'avoir vécu moi personnellement, et je sais qu'en discutant avec un bon nombre de collègues, c'est un peu identique, on a quand même tous réfléchi à un moment donné de voilà ce qu'on faisait au quotidien, ce côté aussi peut-être très artistique que la cuisine avait prise par rapport au dressage, par rapport au décor, à cet esthétisme de l'assiette. Est-ce qu'il n'est pas inutile ? On s'est rendu compte que quand on cuisinait à la maison assez simplement, que le goût en fin de compte était même peut-être meilleur que quand on le faisait dans une assiette. Quoi.
Faites comme pour moi pour le dressage. La cocotte au milieu de la table, moi je n'arrive pas à dresser. Je n'ai pas la patience de dressage sophistique.
Laurent, je prends un exemple. J'ai fait des petits pois, Laurent. J'ai fait des petits pois de façon classique, en faisant fondre mon gras de jambon, rouler mes oignons, mes carottes, mes petits pois, j'ai déglacé. C'est vrai que ça n'avait pas une couleur très verte, c'était pas fluo, c'était pas très joli à voir. Mais Laurent, c'était bon.
C'était bon, mais...
Et c'est ça ce qui se passe dans les cuisines.
Mais c'est quand même bon quand vous faites une cuisine qui est mise en place, parce que c'est pour ça aussi qu'on va au restaurant, c'est pour manger des choses qu'on ne mange pas à la maison. Donc c'est là aussi, on a envie vraiment de vivre une vraie expérience.
Il y a une vraie remise en question, et je pense que ça va être une remise en question qui va être très pertinente pour la haute gastronomie, pour aller encore plus à l'essentiel, ce qui est le goût et le plaisir.
Non, mais la haute gastronomie est ultra dépendante de la clientèle internationale. Aujourd'hui, dans les 3 étoiles, parisiens en tout cas, peut-être français de la Côte d'Azur, si vous enlevez la clientèle internationale à très fort pouvoir d'achat, il n'y a pas grand monde. Et donc, sans cette clientèle-là, il n'y a pas moyen
mais
de le faire.
Oui, mais justement, c'est pourquoi la haute gastronomie est réservée qu'à la haute clientèle internationale.
Ça,
est-ce que nous, les petits Français, on ne pourrait pas l'avoir aussi ?
Mais je suis bien
c'est
d'accord.
C'est une vraie question.
Et c'est ce que fait Christophe Baquier au restaurant du Castellet, qui est un chef 3 étoiles qu'on a reçu ici. Il est privé de cette clientèle, effectivement. Eh bien, il va cuisiner chez les gens, chez les Français.
Et justement, garder le contact.
Et pour garder le contact avec sa clientèle. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais on parlait de remise en question, Yves Candebord. Ça pose aussi la question de l'avenir des guides gastronomiques, ça, quand même.
Parce clairement.
Pour la suite, là, entre le Michelin et.
L'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que c'est les guides gastronomiques qui ont poussé à cette surenchère d'excellence, ou est-ce que c'est les restaurants qui ont poussé les guides à le faire ? Voilà. Je pense que ces crises-là, malheureusement et heureusement, vont peut-être retrouver un côté très humain, très simple et très qualitatif quand même. Attention.
Alors, vous l'entendez, hein, les chefs et leurs restaurants n'ont pas fini de nous surprendre. La gastronomie vit un tournant historique plein de créativité. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, on ne sait pas encore exactement le nombre de restaurants qui ne pourront pas repartir, mais on va suivre le dossier, vous pensez bien à cette table, et on vous en parlera. Avant de retrouver le camarade Jean-Luc Petit-Renaud, on va s'intéresser à la sensualité et à la texture de nos aliments. Ce sera juste après ça avec Caroline Mignot. A tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
L'admirable cholestérol qu'on va se payer.
Ah, je l'avais oublié, l'admirable Jean-Pierre Marielle. À manger et à boire, c'est ce que nous vous offrons chaque samedi ici au studio Coluche. Yves Candebord et Olivier Poul se sont avec moi. Avant de retrouver notre invité Camille Chamou, eh bien on accueille une autre défenseuse de la fourchette, ancienne journaliste culinaire. Elle a raconté nos terroirs pour le magazine Régal. Elle a aussi commis le guide du Paris sucré, une carte des petites douceurs parisiennes. Experte en gastronomie, elle nous fait rêver et réfléchir chaque jour sur son compte Instagram. C'est Caroline Mignot. Bonjour Caroline.
Bonjour Laurent.
Ravi de vous accueillir à cette table. Alors pour vous, on va dire les choses franchement, Caroline Mignot, la gourmandise n'est pas un défaut, elle se partage.
Bah oui, c'est un outil de générosité. et ça soulève, selon moi, beaucoup de sensations. En fait, il y a le pouvoir de l'évocation derrière la gourmandise, et ça parle à tous. Et donc moi, c'est mon
dada.
Mon outil de communication préféré. Ouais.
Les odeurs, les parfums, les textures. Vous avez profité encore plus du confinement, j'ai l'impression, avec ce temps qui nous était imposé comme ça, pour vous attacher vraiment aux parfums, aux odeurs et aux textures, et pour, comme vous le dites, manger en conscience, en fait. Hein.
Oui, c'est ça. Je me suis retrouvée, comme tout le monde, isolée chez moi et j'avais plus accès à toutes ces sollicitations extérieures. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. En fait, je peux pas rester enfermée chez moi, ne plus rien sentir, ne plus rien goûter, ne plus rencontrer personne. Donc, j'ai essayé de trouver des ressources en moi et chez moi pour pouvoir continuer à explorer, en fait. Donc, c'était dans ma cuisine du quotidien, c'était dans les différentes pièces de ma maison, les odeurs qui se dégagent d'une salle de bain.
Partagez les odeurs avec vos abonnés, qui vous parlaient de l'odeur du pain grillé, du beurre fondu, des madeleines. Ce sont des odeurs rassurantes et réconfortantes.
C'est ça. La cuisine a les éléments de cuisine, les produits, ces petites sensations du quotidien, ont le pouvoir d'évoquer plein de choses. Et ça, c'est des choses qu'on connaît depuis, évidemment, depuis notre naissance, en fait. Donc,
avant même. De tous nos sens, l'odeur est celui que l'on enfuit le plus profond en nous et c'est celui que l'on garde le plus longtemps. On a oublié des bruits, on a oublié des images. L'odeur est quelque chose de fantastique.
Olivier, si jamais un jour vous m'invitez à dormir, si vous voulez me mettre de bonne humeur, brûler du pain le matin.
Ben moi, c'est pareil. Je
brûle un pain tous les matins. Je fais exprès de brûler du pain et je garde cette odeur pratiquement toute la matinée.
Mais c'est une vraie influence sur le moral. Ouais. Hein, ça, c'est vrai que ça fait un bien fou. Alors parlons des textures maintenant, parce que vous vous attachez très précisément aux textures. Je pense par exemple à celle des fromages et à des croûtes de fromage. Décrivez-nous par exemple un comté, par exemple, comme vous le feriez sur votre compte Instagram.
Alors, un comté, il peut être ferme et comme souvent ce que les gens recherchent dans un comté et ce qui s'accentue avec l'affinage, c'est le côté petit cristaux, en fait. Ce truc qui croustille, qui est tout fin, un petit peu un peu fleur de sel, ce truc qui croustille sous la dent. Et ça, c'est, je pense, que ce que recherchent beaucoup de gens avec un comté. Ouais.
Ce n'est pas du sel.
C'est pas du sel, non, absolument, non. Exactement. La texture du mochi, vous en parlez, cette petite gourmandise japonaise. La première bouchée est tendre et mâchonnante, vous dites, suivie d'une mousse aérienne un petit peu grasse. Donc, vous prenez le temps, en fait, d'être à ce que vous mangez.
Exactement. Oui, je mange en conscience. Ça, je l'ai appris avec les années, à travers mon métier de journaliste, évidemment. Et aussi à travers cette volonté de prendre le temps d'être vraiment à ce que je fais. En fait, voilà, je mange, donc c'est à la fois le regard. Regarder d'abord ce qui se présente dans mon assiette. Je scrute tout. Et ensuite, je sens, évidemment, il y a les parfums qui se dégagent. Et ensuite, je commence à déguster. Et là, il y a la mâche, le côté sirupeux, le côté velouté, le côté rugueux. Il y a une palette infinie et c'est ça qui me passionne avec les textures.
Amis auditeurs, prenez le temps, comme Caroline Mignot, de manger en conscience, effectivement. Et en parler des parfums, il y a même le parfum d'une belle grappe de tomates italiennes que vous venez d'acheter qui vous rappelle le souvenir des parfums que vous avez portés.
Oui, tout à fait. J'adore cette odeur de tige de tomates. En fait, les feuilles et les tiges, c'est une odeur très caractéristique. Et je sais pas pourquoi. Un jour, j'avais porté un parfum que j'associe à cette odeur. Alors qu'il s'agit en fait de baie de cassis dedans. Je sais que l'ingrédient est plutôt baie de cassis, mais moi, je l'associe à cette odeur de tige de tomate, effectivement, qui est très verte,
les
très végétale.
Les correspondances. Vous allez faire un répertoire de tout ça? Vous allez travailler sur quelque chose un peu?
Ouais, j'aimerais bien. Le mot correspondance, c'est exactement ça.
Vous reviendrez nous en parler. Caroline Mignot, qu'on peut retrouver en attendant sur Instagram. Merci Caroline d'être venue à la table des bons vivants. Et c'est l'heure de retrouver le camarade Jean-Luc, les amis.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Alors ce samedi, Jean-Luc Petit-Renaud pousse un cri d'alarme. Il est inquiet comme de nombreux restaurateurs. Il brandit sa fourchette et il nous invite à lever le banc pour s'asseoir au bistrot ou au restaurant. Ami Jean-Luc, bonjour.
Bonjour mes beaux camarades, vendeurs de rêves et de poésie. J'espère que vous avez encore un peu de force dans vos mains et vos poignets pour applaudir cette fois ces aubergistes qui, pour certains, sont en train de friser la fermeture. Alors je vous en supplie, pendant quelques semaines, sortez des autoroutes ennuyeuses pour vous installer dans ces auberges de famille. Ils ont besoin de votre visite pour que cette France des routes départementales sente bon à nouveau la cuisine régionale. L'autre jour, d'ailleurs, j'ai détourné le réalisateur de film Fabien Ottoniente de sa voie rapide. Il traversait le Charolais et je lui ai fait découvrir une table, la table du Petit Doucet, à Charolles exactement, au cœur de la Saône-et-Loire. Le Petit Doucet, moi je l'appelle comme ça parce que je l'ai connu sur la place de l'église en train de croquer sa madeleine à la sortie de l'école, est au bord du bilan. Il a repris cette maison, il a gagné son étoile. Il a ouvert près de la maison mère un bistrot accessible avec escargot et côte de bœuf. C'est génial. C'est urgent d'aller chez lui et chez bien d'autres. Alors, il faut sauver le soldat, toussé, j'avais envie de dire, et tous les beaux aubergistes. Et puis, vous savez, si vous n'allez pas dans ces belles auberges cette semaine, eh bien, je ne reviens pas la semaine prochaine.
Eh ben, on va voilà, y retourner.
On y va, Jean-Luc.
On y va, Jean-Luc. On y va. Rien pour avoir le plaisir de vous réentendre encore comme tous les samedis ici à la table des bons vivants. Effectivement, de nombreux restaurateurs vont déposer le bilan. Donc, on va suivre ce dossier. Vous pensez bien, mais en attendant, retournons au restaurant pour les soutenir. Pour faire de bonnes tablées, il n'y a pas que le restaurant, la maison aussi à la côte. Et Yves Candebord, vous allez faire de nous des pizzaiolo. Alors, non pas du dimanche, mais du samedi, hein. Ça sent bon la margarita, là.
On parlait d'odeur tout à l'heure,
oui,
ça y est, là.
On est dans les effluves et dans les odeurs, et on va accueillir Camille Chamou, notre invité, qui est jury d'un joli festival de cinéma sur Internet. A tout de suite, les amis.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Midi approche, hein, vous le savez, et bien c'est l'heure d'ajouter un couvert pour accueillir notre invitée. Parisienne née sous Giscard, elle tombe amoureuse du théâtre à l'âge de 7 ans. Auteure et interprète, elle croque la vie dans ses seules en scène comme au cinéma. Elle vient d'enchaîner 6 films. Hein. Elle n'est pas prête de s'arrêter, je peux vous dire. Membre du jury du Champs-Élysées Film Festival, Camille Chamou est notre invitée. Bonjour Camille.
Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Et vous allez remonter sur scène à partir de septembre.
Exactement, pour mon nouveau seul en scène.
Au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Exactement.
Voilà une bonne nouvelle. Vous avez une idée du titre déjà ?
Bah, probablement, ça va s'appeler Éloge du minuteur. Vous voyez, on rejoint la cuisine.
Ah, pour les œufs à la coque, très important.
Très hein important.
Et pour les pizzas aussi. Hein.
Et les pizzas aussi. On va faire une pizza avec Yves Candebord dans un instant. Vous aimez cuisiner, hein, Camille Chamou ?
Oui, j'aime surtout manger parce que j'aime cuisiner, mais je cuisine mal. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer. Parce qu'on a des marges de progrès dans tout dans la vie, vous pensez pas ?
Mais je suis tout à fait d'accord.
Mais absolument. Et puis le confinement a renforcé vos talents de cuisinière. Hein,
exactement. Je pense que je ne suis pas la seule pour le coup, mais comme 60% des Français, je crois, je me suis enfin mise en cuisine. Et non, c'est agréable en fait de sentir qu'on a une vraie marge de progression dans tout. Parce que moi, j'étais la plus nulle du monde.
C'est valorisant de cuisiner.
Et maintenant, oui, je me sens vraiment capable de faire plein de trucs. Et hyper vite, et un peu avec ce qu'il y a dans le frigo.
Quel est votre goût de la semaine, Camille Chamou ?
Mon goût de la semaine...
Un restaurant dans lequel vous êtes retournée, peut-être ?
Oui ! Je suis allée... Ah, mais oui ! En fait, cette semaine, c'est la première fois que je suis retournée au restaurant. Évidemment, comme tout le monde, je suis allée en terrasse à Clamato, à Paris, dans le 11e.
Un restaurant de poissons !
Et oui, et c'est délicieux ! C'était super bon. Enfin, c'est très simple. Hein. Le truc que j'ai adoré, c'est leur fish and chips. Alors, vous allez me dire, c'est hyper simple, mais en fait, un fish and chips super bien fait... C'est génial.
C'est une très belle adresse.
C'est très, super très belle bon, Clamato. C'est des trucs tout simples, les moules, ouais. Les fusées de chien.
Mais
super bon.
Mais le plus dur, c'est faire simple.
Ouais.
C'est le plus dur.
C'est ce qu'on dit
simple,
régulièrement.
Très bon.
Vous aimez passer du temps en Normandie, Camille Chamou, hein, mais vous êtes passé de la cuisine au beurre et à la crème à un régime libano-grec.
Oui, parce que j'ai rencontré mon homme qui est un libano-grec. Et c'est vrai qu'il m'a fait passer de la... Moi, la cuisine familiale chez moi, c'est beurre et crème. Vraiment, beaucoup. Beaucoup de beurre, beaucoup de crème. Mais en fait, j'ai
c'est
découvert...
Bon.
C'est délicieux.
Vous avez,
c'est délicieux.
C'est le représentant du beurre et de la crème
j'adore.
Officiellement.
Enchanté. Non, moi, j'ai découvert l'huile d'olive, le régime grec, ou le régime crétois, comme on disait dans les années 90, parce que les gens ne juraient que par le régime
c'est
crétois.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais oui, moi j'adore maintenant. Mon petit plat préféré, je dois dire, est un plat grec. C'est très simple d'ailleurs, mais c'est la salade d'Akos, qui est une salade avec des croûtons de pain complet et des petites tomates cerises et un fromage qui s'appelle la misitra qui n'existe pas en fait ici, qu'on ne peut pas trouver.
Lait de brebis comme la feta.
Oui, ouais. Mais c'est vraiment particulier parce que ça a une texture un peu plus proche de la mozzarella ou de... Enfin non, pas de la mozzarella, de la burrata presque.
D'accord, crémeux. Ouais.
Mais ouais, un peu crémeux avec en même temps des petits bouts un peu solides et ça a un goût très particulier, très 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 bon. Eh ben, et c'est avec ce fromage qui est fait là d'Akos.
On va rester dans une ambiance méditerranéenne parce que Yves Candebord nous met aux pizzas aujourd'hui. Mmh. C'est un défi que vous aviez lancé pendant le confinement, cher Olivier Pouls.
Il m'a provoqué.
Yves, hein, parce que vous nous avez parlé de cet appareil qui ressemble, on va dire, à un appareil à raclette ou à une sorte de...
Un ovni, je dirais.
Un ovni, oui, un petit peu. C'est en plastique, ça coûte pas cher cet appareil à pizza. Hein.
Alors, cet appareil, ça coûte pas cher parce qu'il coûte moins de 40 euros. Il coûte 39 euros. Voilà.
Et on peut faire des pizzas chez soi, quoi.
Et on peut faire des pizzas chez soi. J'ai trouvé ça chez Boulanger. Et honnêtement,
C'est très pratique.
Racontez-nous alors, parce que là, on a une belle pizza en studio.
Alors, vous pouvez voir, c'est vraiment un ovni. Il a pratiquement le rouge Ferrari, parce qu'en plus, je le trouve quand même assez joli de l'extérieur. Il a de l'allure. Et en fait, de côté, voilà, c'est une plaque qui chauffe très fort sur le dessous, aussi bien que sur le dessus. Alors, le petit conseil que je donne quand même, c'est n'essayez pas de faire votre pâte à pizza. Allez chez votre boulanger, demande-lui de la pâte à pain.
Bien sûr, c'est voilà. La cousine de la pâte à pizza.
C'est exact. Moi, je l'ai fait avec la pâte à pain et c'est quand même, je dirais, déjà
elle est pratique belle. À faire. On a une pâte qui est très bien colorée, alors, qui est boursouflée sur les côtés.
C'est l'avantage d'avoir pris de la pâte à pain, c'est qu'on a une pâte sur le fond qui est fine et sur le côté qui a soufflé. Le seul petit inconvénient qu'il y a là, mais moi je trouve que c'est un avantage en tant que cuisinier, c'est qu'on ne peut pas mettre beaucoup d'ingrédients dessus, Laurent. Alors, l'astuce...
Ça impose de faire simple.
Ça impose de faire simple, c'est faire... Moi, j'ai fait juste une base, donc, de tomates avec de la mozzarella. Je l'ai cuite comme ça. Et à la fin, je dépose dessus des ingrédients crus. Là, je me suis amusé à redéposer un peu de parmesan. Je me suis amusé avec
des tomates cerises
et un peu de roquette.
Un peu de roquette qu'on met à la dernière minute.
Moi, je vois un autre inconvénient, c'est que je n'ai pas la pizza devant moi, là.
Oui, c'est vrai.
Après, il y a une astuce, quand même. C'est que quand vous allez étaler votre pâte, vous allez prendre votre planche, une planche à découper, que vous allez légèrement fariner, et vous étalez votre pâte sur votre planche à découper, parce qu'une fois qu'elle va être bien étalée, assez fine, vous allez pouvoir la glisser très facilement.
Donc une petite mise en place comme ça.
Comme si c'était, en fin de compte,
oui, une pelle.
La pelle du pizzaiolo, vous le faites avec votre planche pour pouvoir la glisser.
Combien de temps de cuisson, ça?
Là, ça m'a demandé 18 minutes.
18 minutes de
18
cuisson.
Minutes.
Oui, c'est plus long que dans un four, hein, forcément.
C'est un peu plus long que dans un four parce que la puissance est un peu moindre.
Mais ça, c'est le genre d'objet qu'on peut détourner, comme on l'avait fait déjà ici avec le rice cooker ou l'appareil à raclette. Par exemple, quand on est étudiant, qu'on n'a pas beaucoup de matériel dans son studio, on peut avoir un appareil comme ça pour faire du vrai fait maison. Comment on pourrait le détourner? Alors, je sais que vous êtes en train de le déplier.
C'est assez étonnant.
Ça va, Camille Chamou? Ça vous plaît, le parfum?
Laurent,
j'adore.
C'est qu'on peut l'ouvrir, on le met complètement à l'horizontale et avec le couvercle du haut qui est rayé. On s'en sert comme une grillade.
Ah oui, façon plan de chat?
Façon plan de chat, façon grillade. Pour quelqu'un, un jeune qui a un petit studio, qui n'a pas la chance d'avoir une petite gazinière, c'est vraiment un petit ustensile qui n'est pas onéreux. On peut faire des pizzas, on peut faire une petite grillade. Et j'ai essayé, à la place de la pizza, Laurent, j'ai fait des crêpes. Et ça marche aussi.
Ça marche aussi?
Parce que c'est anti-adhésif.
Ah, magnifique. Bon, on vous mettra les références sur europe1.fr, bien entendu. Et pendant la pause, on va couper des parts de pizza que nous allons servir. Vous pensez bien.
Wow.
À Camille Chamou.
Écoutez comme ça croustille.
Et une pizza pour Camille Chamou et une pizza pour nos auditeurs. Vous retrouverez donc les références sur Europe 1. Et on revient avec un plat du jour spécial pour vous, Camille. Un plat du jour made in Normandie, mais on vous en dit pas plus parce que c'est une petite surprise.
La crème du beurre?
Chic.
Non, mais du poisson. On revient juste après les titres du journal de François Claus. A tout de suite sur Europe 1 et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire, ça sent bon.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pouce d'épinard.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Merci d'être avec nous depuis 11h et puis soyez les bienvenus, hein, surtout si vous nous rejoignez. Alors nous avons récolté les fèves du côté de Nice, nous sommes retournés au restaurant et en attendant un plat du jour made in Normandie, on continue de tailler la bavette avec notre invitée, la comédienne humoriste Camille Chamou,
et
qui nous a annoncé une bonne nouvelle. Elle sera de retour sur les planches à partir du mois de septembre au Théâtre de la Porte Saint-Martin pour la voir sur scène. Ce sera le combientième spectacle parce que Né sous Giscard, c'était le deuxième.
Oui, exactement. Hein, L'Esprit de Contradiction, le troisième. Et celui-là, ce sera donc le quatrième.
Donc le quatrième. Et des pizzas donc pour prendre des forces, comme le dit
ça
Olivier.
Fait du bien, je ne m'attendais pas à ça.
Une pizza signée Yves Candebordes. Oui, c'est une cousine de la Margarita. Elles
Yves Candebordes.
On a une pâte, tu vois. C'est étonnant.
La pâte est fantastique.
Oui, fantastique.
Elle est bien cuite.
Le croustillant.
Non, je dis, c'est très étonnant.
Vous avez mis de la semoule ou de la polenta en dessous de la pâte? Même pas. C'est génial. Qu'est-ce que c'est bon.
C'est vrai que la difficulté de la pizza. C'est la cuisson. Dans un four traditionnel, on n'y arrive pas, elle reste molle.
Exactement, ça marche bien ça. Bravo. Ah, c'est un retour en fanfare, Yves Candebordes.
Mais après, on a fait pizza flamingue, pareil.
On peut tout faire.
C'est une pâte à pain, après on met ce qu'on veut dessus.
Camille Chamou, vous nous l'avez dit, vous aimez aller au restaurant. Oui. Alors, il paraît que vous aimez choisir sur la carte, et ça j'adore, ce dont les autres ne raffolent pas du tout. Hein,
très vrai.
C'est vrai ça?
Très vrai. Par exemple, j'adore que ça croustille en même temps que je parle.
Oui, mais c'est bien. Bah, regardez, on va faire.
Mais comme quoi, la pâte est vraiment croustillante.
Oui, la pâte est croustillante. Mmh. Une belle garniture, je le redis, avec des tomates cerises, de la roquette, de la mozzarella. Ce qui est important, Yves, c'est de choisir des ingrédients de bonne qualité.
Ça, Laurent, quoi qu'on fasse en cuisine, la base, là, c'est pas la peine de compliquer. Si on a la même matière première, on fait le plus simple possible. on s'écarte, on la laisse faire.
Qu'est-ce que vous aimez choisir que les autres ne choisissent pas?
Non, mais je dis ça parce que j'aime beaucoup les abats. J'aime les trucs bizarres, moi.
Mais c'est pas bizarre.
Je vais toujours aller chercher un truc où les gens sont là, bon, sérieusement, double tripou au quadruple grade.
Comme ça, vous êtes tranquille, ils piquent pas dans votre assiette.
Voilà, au moins, ça, c'est sûr.
Ça vous en savez quelque chose, Olivier.
Non, mais j'aime bien les trucs inconnus. En fait, c'est marrant. J'ai repéré qu'il y avait quand même deux types de gens au resto. Il y a les personnes qui prennent tout le temps la même chose.
C'est vrai.
Et qui aiment explorer tout le temps le même plat. Mais mon mec, par exemple, il prend la salade César dans tous les endroits où il y a une salade César. Il adore la salade César et il aime voir toutes les explorations de la salade César. Moi, je prends toujours le truc inconnu ou le truc bizarre. Ou
machin. Vous êtes curieuse, aventurière. Ouais. Comme dans votre film d'ailleurs, hein, Première Vacances, que vous avez coécrit, qui est fantastique, où il y a une scène, il faut regarder ce film en VOD, c'est vraiment un super film, une très belle comédie qui se passe en Bulgarie. Et il y a une scène où vous êtes dans un petit boui-boui bulgare et vous mangez quoi? C'est des patates à l'huile?
Oui, bah, en fait, c'est une spécialité bulgare et c'est des patates qui trempent dans une espèce d'huile rouge avec des morceaux de viande. Et de... C'est comme un truc un peu bouilli, là, un peu. Mais moi, j'adore.
Alors pour le plat du jour, on vous emmène en Normandie, c'est une région que vous aimez bien, Camille Chamou. Et nous allons appeler monsieur Paul Lacheret, qui est chef à l'huître brûlée, une adresse que vous
fréquentez. J'adore ce restaurant, il est super bon.
À Honfleur.
Oui, à Honfleur.
Il est avec nous au téléphone parce que c'est un autodidacte et c'était quelqu'un qui a le sens d'une cuisine brute instinctive et on veut vous le présenter. Bonjour Paul Lacheret.
Bonjour Laurent, bonjour Camille.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Paul Lacheret. Je le disais, vous pratiquez une cuisine inventive et brute, beaucoup de poissons, beaucoup de viande. Je sais que chez vous, Camille Chamou aime beaucoup manger des couteaux, par exemple.
Tout à fait.
Ouais, on en fait de temps en temps. On va attendre août pour les faire, parce que oui, sinon, c'est que des couteaux d'élevage. Donc là, on va pouvoir être sur du couteau de Normandie à partir du mois d'août.
Juste récolté sur les plages. Et vous aimez aussi cuisiner les poissons de pêche durable. Alors, un exemple, tiens, de poissons de pêche durable pour notre plat du jour.
En ce moment, on est en plein dans le maquereau. Hyper raisonnable en termes de prix. Alors moi, je vais vous proposer de le faire... vous allez l'avoir enfilé, votre maquereau, et vous allez le snacker assez fort, très rapidement, pour qu'il soit vraiment juste grillé du côté peau et tendre à l'intérieur.
Très peu de temps, ça. Hein. Et ensuite, racontez-nous la suite.
On pourrait très bien le faire avec des petits pois, par exemple. On est en pleine saison aussi, ça marche bien.
Bien.
Alors, vous les faites, les petits pois, vous les faites dans une chauffante, dans de l'eau bouillante, salée.
C'est ça, c'est le nom des cuisines. La casserole d'eau bouillante pour les cuisiniers, la chauffante.
Ouais, c'est ça. Vous allez juste les plonger dans l'eau bouillante. Et une fois qu'ils remontent, vous les laissez à peine 30 secondes. Et moi, je les aime comme ça, bien croquants. Vous pouvez les refroidir pour qu'ils soient bien croquants et bien verts.
Et un petit condiment, une petite sauce pour arrondir tout ça et les faire se rencontrer.
Framboise estragon avec soit du citron, soit... moi, je travaille avec quelqu'un qui travaille hyper bien, c'est le domaine Le Paulmier, et qui fait un super vinaigre de pommes qui s'appelle La Paumée, pour un côté un peu plus sucré.
Ah, c'est bien ça.
Et donc, une petite sauce vierge avec sauce soja, huile d'olive, citron au vinaigre, et échalote, framboise... Et estragon, avec pas mal de matière dedans, ça marche hyper bien.
Ah, c'est beau, c'est vrai que les framboises jouent un rôle, hein, effectivement, dans les vinaigrettes avec cette petite touche acidulée. Et puis la couleur, parce qu'on mange aussi avec les yeux. Eh bien, merci Paul Lacheret d'avoir été avec nous au téléphone pour ce plat du jour. Très économique, hein, Paul, c'est moins de 4 euros par personne si on le fait à la maison, ce plat. Hein. C'est vraiment quelque chose d'accessible.
C'est vraiment accessible, comme vous dites.
Eh bien, on viendra le manger chez vous à l'huître brûlée, 8 rue brûlée, donc à Honfleur. Merci Paul et bonne reprise.
Merci à vous. Merci. Au revoir.
Au revoir, bonne reprise. Ça donne envie, hein, ce petit maquereau snacké. Voilà, un joli condiment.
C'est vrai, c'est encore un produit qui est en pleine saison. C'est là que je pense qu'il est le meilleur et c'est là qu'il est le moins cher. Donc, on revient toujours à la même chose, Laurent. Les produits de saison. Il n'y a pas de secret.
Et de saison, il y a la pizza aussi, Camille Chamou. On vous laisse en prendre une part,
c'est totalement
bien entendu,
de saison. C'est de toutes les saisons, la pizza. C'est ça qui est bien.
Quatre saisons, d'ailleurs.
Et on revient dans un instant avec les questions de nos auditeurs posées au 3921. Et même Camille Chamou aura une question à nous poser. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 12h30. Ne bougez pas, hein, on revient juste après ça.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce samedi, la comédienne et humoriste Camille Chamou est avec nous. Et à partir de mardi, Camille, vous ferez partie du jury de la 9e édition de Champs-Élysées Film Festival.
Oui.
Alors, confinement oblige et crise sanitaire oblige, effectivement. C'est un film qui, du coup, se passe sur Internet.
C'est un festival qui se passe online. Mais moi, j'ai trouvé l'idée fantastique parce que il continue à diffuser. Alors déjà, le festival des Champs-Élysées Film Festival, c'est un festival de films indépendants. Donc c'est un festival qui défend un cinéma qui n'a pas forcément pignon sur rue et qui a une sélection super intéressante. Je peux vous le dire parce que comme je suis jury, j'ai commencé à voir les films et c'est super intéressant. Et là, il donne les films en accès libre et gratuit à tous les spectateurs. Ils se connectent juste sur l'adresse Champs-Élysées Film Festival et ils ont un pass et ils peuvent regarder. les films de chez eux. Et en plus, à 19h, ils font un set de DJ. Alors, il y a Barbara Carlotti qui fait un set en direct. Il y a plein de gens qui font des sets en direct tous les soirs du festival, genre du 9 au 16.
C'est ça, exactement.
Ils font des petits sets en direct de DJ. Donc, vous pouvez même faire la fête chez vous avec le DJ qui mixe pour vous et tout ça. C'est hyper chouette et je trouve que la proposition, elle a fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Et voilà,
et
je
oui, il nous manque aussi les cinémas. Hein. Les restaurants rouvrent, mais les cinémas nous manquent aussi.
Bah
on
oui,
espère pouvoir
oui.
y retourner très,
ça
très vite.
Ça va pas tarder, mais c'est tarder. Chouette mais de voilà. reprendre contact avec le truc.
Mais
ouais.
il y a le festival sur Internet en attendant.
Ouais.
Le Champs-Élysées Film Festival, retenez bien. On a compris que vous aimiez bien manger, que vous aimiez cuisiner, Camille Chamou. Est-ce que vous avez une question à nous poser tiens, concernant une recette ou un truc, une astuce que vous aimeriez reproduire à la maison?
Alors moi, j'ai une passion pour l'œuf. Mon ingrédient préféré dans la vie, c'est l'œuf. J'adore ça, sous toutes ses formes. Et j'adore les œufs qu'on trouve dans les restaurants japonais, qui sont fumés. Enfin, vous voyez qu'ils
marbrés
sont.
Marbrés un peu.
Ouais, voilà. Et ça, je ne sais pas comment on fait, j'ai jamais demandé.
Je ne crois pas que c'est fumé, je pense que c'est mariné.
Mariné, c'est une marinade, effectivement.
Ouais, alors, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais je suis pratiquement sûr que c'est mariné.
C'est des œufs mollets en tout cas qui sont cuits 6 minutes dans de l'eau bouillante.
Ah, c'est 6 minutes. Ouais. Ah, minutes. Bah ça, je savais pas que c'était 6 voilà. minutes.
6 minutes l'œuf mollet. Et ensuite, on va les mettre dans une marinade avec pas mal d'ingrédients. Il y a un ingrédient qui s'appelle le tsuyu, qui est qu'une sauce utilisée au Japon, notamment avec les nouilles soba, par exemple. On va mettre aussi du saké, du sucre, du gingembre. Il y a plein de choses. Et on fait mariner les œufs une fois qu'ils ont été calés dans cette marinade, en fait. Hein.
On parlait de fumée. Alors, c'est quelque chose de totalement différent. Mais moi, j'ai une petite astuce. Je me suis amusé, confinement oblige et barbecue oblige. Je me suis fait un barbecue. À la fin de mon barbecue, je l'ai fermé. Je me suis mis des œufs dans la boîte, ouverte, dans le barbecue. Et en les laissant jusqu'à que, donc, que la température redescende, je me suis fumé les œufs. Je les ai fait à la coque le lendemain et j'avais un œuf à la coque fumé.
Mais arrête,
c'est un scoop. Yves Condebord fume les œufs.
C'est génial.
Non, mais l'œuf est en train quand on laisse un œuf.
Il est très
poreux,
la coque est poreuse.
Mais donc ça a pris la fumée et je les ai fait le lendemain matin à la coque et j'avais un œuf. Alors c'est vraiment pas très fumé. En plus, je ne suis pas trop fumé. Là, c'était très subtil et très agréable. Donc, on peut faire un œuf fumé comme ça.
Et pour votre recette d'œufs marinés, Camille Chamou, il faut simplement les laisser un à deux jours dans le réfrigérateur, dans cette marinade, pour qu'ils s'imprègnent bien, mais sans la coquille. Hein. Donc, effectivement, des œufs mollets cuits 6 minutes.
Génial.
Voilà. Donc, vous revenez nous voir la prochaine fois avec.
Mais bien sûr, je vous dirai comment c'était.
De fumé voilà. japonais. Une question maintenant au 3921, amis auditeurs.
Bonjour Laurent, je m'appelle Jérémy. J'habite à Ligny-en-Barrois, dans la Meuse. Et avec mes parents, nous avons cueilli le week-end dernier des asperges des bois. J'aimerais savoir comment vous les cuisinez et qu'est-ce que vous conseillerez comme accompagnement. Merci et bonne journée.
Les asperges des bois, alors on a un expert ici, c'est Olivier Pouls, à ne pas confondre avec l'asperge sauvage.
Non, c'est pas la même chose. L'asperge des bois, c'est une toute petite tige, ça ressemble en fait à un épi de blé qui serait pas mûr, c'est
tout vert.
C'est la fin de la saison là, parce qu'elles sont en train de commencer à fleurir, et c'est vrai qu'il y en a partout en France. Moi, en Bourgogne, j'en avais, il n'y avait qu'à se pencher pour ramasser, j'en ai ramassé beaucoup, donc j'en ai cuisiné beaucoup. Le plus simple, c'est encore de. On garde les 30-40 derniers centimètres avec la tige évidemment et le petit épi. Je les fais revenir dans une matière grasse. Un petit peu d'huile d'olive, par exemple.
Pas de beurre.
Ou du beurre,
quand même.
Pour faire plaisir à Camille. Hein, mais sinon, de l'huile d'olive, ça va très bien. Je rajoute un tout petit fond de jus de volaille, par exemple. Un peu de parmesan. On peut râper, par exemple, un tout petit peu de zeste de citron. Et hop.
Cuisson minute, ça.
On a qu'à les déguster comme ça. Il faut que ça reste un petit peu croquant. Il ne faut pas les cuire à grande eau. Moi, je ne suis pas un fan de la cuisson des légumes à grande eau.
Vous avez raison, Olivier. Il ne faut surtout pas les cuire à l'eau.
Simplement comme ça.
Ça va les laver. Et moi, je pense que l'asperge, c'est œuf. Si vous me demandez des asperges, je passe œuf.
Ça va plaire à Camille.
Moi, je suis contente.
Non, mais faire un œuf au plat. Faites un œuf au plat de façon normale. Et quand il est pratiquement cuit, vous allez poser les asperges en morceaux posés dessus. Mmh. Juste les laisser tiédir. On va garder tout le côté végétal. Mmh. Voilà. Juste les tiédir. Œuf, asperges, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est très, très simple. Et je dirais pour finir, une petite pointe de vinaigre. Deux petites.
L'acidité pour équilibrer.
Voilà, on a toute l'onctuosité, la suavité de l'œuf. Le végétal de l'asperge et l'acide du vinaigre.
Eh bien, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Ne bougez pas, on vous en parle dans un instant avec les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. Il nous propose de faire de bonnes affaires côté vin ce samedi. Et Camille Chamou, vous restez encore un peu avec nous
avec
parce
plaisir.
Qu'on a un beau questionnaire pour vous, le questionnaire des bons vivants. A tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Dernière partie de notre émission avec la bonne vivante Camille Chamou. On se prépare pour les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. Camille, vous aimez monter seule sur scène. Vous allez le faire d'ailleurs en septembre au Théâtre de la Porte Saint-Martin. En cuisine, c'est pareil. Vous aimez être toute seule, vous aimez être tranquille?
Le contraire.
Ah.
L'intérêt de la cuisine, c'est la convivialité. Mais depuis la préparation jusqu'à manger.
Vous mettez
moi,
tout le monde à contribution.
Quand on prépare... Ah ouais.
Ça se partage, vous avez raison.
Ah, je trouve que c'est merveilleux.
Moi,
en fait, c'est beaucoup plus sympa. Et puis après, ça m'est arrivé de faire à manger toute seule. Et de... j'aime la façon dont le cerveau vaque quand on fait à manger tout seul. C'est un truc particulier, je trouve. C'est vraiment un... Il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau quand on est en train de faire à manger et qui est assez chouette.
C'est ce que vous avez fait avec votre fameux poulet tagine. Il est comment, votre poulet tagine?
Non, mais écoutez, c'était vraiment genre... J'ai pris... En fait, on faisait des plats tour à tour parce que j'étais confinée avec un grand nombre de gens. On était 10. Je me dis, oh, je vais aller acheter un poulet fermier parce qu'on était à côté d'une ferme. Et puis, je vois qu'il y a des citrons confits dans le frigo. Je me dis, oh, je vais regarder. Et en fait, je tombe sur une recette de poulet au citron confit. Mais c'est génial ce citron confit en fait, parce que ça fait un effet de malade alors que c'est juste un poulet qui mijote avec du citron confit et quelques autres trucs. Mais
une
note vraiment...
orientale tout de suite. Oui.
Mais oui, mais c'est fou, ça marche, c'est incroyable.
Ah, ça donne de la profondeur et ça interpelle, parce que c'est vraiment un goût qui marche.
C'est un goût très fort, très particulier, donc en fait ça donne l'impression qu'on est un super bon cuisinier, parce que c'est un goût pas banal. Et non, voilà, c'était ma grosse spécialité. Je l'ai servi juste avec des patates en plus. Alors vraiment,
c'est parfait. Mais c'est
un
très
truc
bien.
Tout simple, mais ça a cartonné.
Et Camille Chamou, côté vin, qu'est-ce que ça donne?
Ah bah moi, j'adore le Bourgogne.
Oh, c'est du goût de luxe.
Ouais, c'est un problème. Non, je suis plus vin rouge que vin blanc. Enfin, dans les vins blancs, j'aime les vins vraiment très très ronds, quoi. J'aime pas les vins acides, voilà. Mais qu'est-ce que c'est alors?
On va parler de bonnes affaires avec Olivier, parce qu'effectivement, vous allez nous parler du millésime 2019 à Bordeaux. Mm-hmm. Vous avez pu le déguster, alors pour le coup, évidemment, plus tard que d'habitude, hein, parce que la crise est passée par là.
Ben oui, vous savez, il y a une tradition à Bordeaux, c'est la mise en marché des vins quelques mois après la vendange, qu'on appelle la campagne primeur, qui a pris du retard, évidemment. Normalement, on est censé aller à Bordeaux déguster les vins du côté du mois d'avril. On n'a pas pu le faire. Donc là, séance de rattrapage, j'ai pu me mettre à jour et ça y est, je commence à avoir une bonne vision de ce millésime 2019. Ah. Et d'ailleurs, en primeur, je vous la livre, cette vision.
C'est une bonne année, pas une mauvaise année?
Alors, on va pas tourner autour du pot. C'est une bonne année, c'est encore une bonne année.
Mais vous dites ça tout le temps.
Mais oui, alors c'est vrai, c'est la spécialité de Bordeaux. Hein. Chaque année, on prétend que c'est l'année du siècle ou du millénaire. Un bon vigneron vous dit d'ailleurs que le millésime, c'est celui qui reste à vendre. Mais cela dit, il faut être objectif. Depuis une quinzaine d'années, en fait, le réchauffement climatique, l'amélioration des techniques, les connaissances, etc., font qu'on ne connaît pratiquement plus de petits millésimes. Alors, il y a eu 2013, que je vais mettre à part, qui est un millésime vraiment compliqué, mais en dehors de ça, c'est vrai que 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 sont de très bonnes années. On peut en acheter.
Vous dites qu'ils sont bons, ça veut dire qu'ils sont chers aussi?
Alors, bonne nouvelle cette année, c'est que la tendance est à la baisse. Le contexte économique est très difficile pour les vignerons.
Ben oui.
Les premières indications qu'on a seraient sur des baisses d'environ 30%. Et ça concerne, oui, 30%, notamment pour certains crus classés, c'est énorme. Mais il faut s'attendre à ce que, dans l'entrée de gamme, la baisse soit un petit peu moins forte, parce que ce sont des crus qui sont moins spéculatifs. Mais je rappelle qu'à Bordeaux, des Fleurs au Gossens, des Pins Beau Soleil, des Tours de Bie, des Roland de Bie, et des Courteillac, ce sont des vins qui se vendent à moins de 10 euros, ou autour des 10 euros, et qui sont des vins extraordinaires, qui n'ont jamais été aussi bons qu'aujourd'hui. Donc, allons-y, le millésime 2019, on peut y aller.
Tous au Bordeaux, et il y a de bonnes affaires, contrairement effectivement à ce qu'on pense toujours, l'inconscient collectif. Les Bordeaux sont chers, les Bourgognes aussi, n'en parlons pas.
Il y a une centaine de marques qui est absolument intouchable pour la grande majorité d'entre nous, mais à côté de ça, il y en a plein. Puis je spécifie quand même que le millésime 2019, il ne sera sur le marché qu'après la fin de l'élevage et la mise en bouteille dans un an.
Hein. Oui, c'est pas pour tout de suite. Eh bien, c'est l'heure de passer sur le grill du questionnaire des bons vivants, cher Camille Chamou.
Oh.
Attention, ça chauffe. On fait chauffer le barbecue.
Ah ouais.
Quel est le goût de votre enfance, Camille?
La tarte avec la pâte feuilletée et que faisait ma grand-mère elle-même, en fait, parce que je la vois encore faire la pâte feuilletée, c'était vraiment c'est impressionnant.
Ah, les pliages et les tours.
Les pliages, les tours. Mais c'est hyper long. Et en fait, elle le faisait avec une dextérité folle et j'adorais, je regardais toujours parce que tous les dimanches, elle faisait une pâte feuilletée et on était toutes les deux très matinales, on était les seules à se lever dans cette maison.
Mais elle mettait quoi dessus? Rien ou
Aux pommes. C'était vraiment une tarte feuilletée, une tarte aux pommes, légèrement caramélisée sur le dessus, mais juste parce qu'elle mettait
la cassonade. La belle tarte aux pommes, c'est délicieux.
Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais j'ai un souvenir, j'en ai jamais remangé comme celle de ma grand-mère. Bon, vous allez dire, c'est un peu la Madeleine de Proust, mais la très, 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 très bonne tarte feuilletée, je trouve que c'est fou.
Quel est le premier plat que vous avez cuisiné?
Non, mais moi, c'est une cata. Moi, je suis vraiment... Un jour, j'ai pris des... j'ai pris des carrés de poisson pané. Et je me suis dit, tiens, je vais faire... Comme j'ai toujours un truc avec le citron, parce que j'ai dit, tiens, je vais faire un gratin de poisson au citron. Et en fait, j'avais 18 ans, j'invitais des amis et j'ai mis des poissons panés. Hein. J'ai écrasé des pommes de terre, mais je comprends pas ce qui m'a pris. Et j'ai mis des morceaux de citron dedans, mais des morceaux de citron,
ah oui,
en fait.
Avec la peau.
C'était imbouffable. C'est-à-dire que j'ai encore les mêmes amis aujourd'hui, mais c'est-à-dire ça
chers.
Reste un... non mais ça reste un
oui, mais vous avez...
une anecdote phare.
Vous avez au moins amis. Voulu revisiter le poisson pané, ça partait d'une belle intention.
C'est surtout des vrais amis ceux-là.
Hein. Ouais, voilà.
Et le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer?
La cervelle. En fait, depuis que je suis petite, moi j'adore les abats. Mais il y en a un que j'ai jamais goûté, c'est la cervelle. Alors je sais pas d'ailleurs parce que ça a été interdit ou je sais pas ce qu'il y a eu à un moment donné, on pouvait plus acheter de cervelle.
La crise de la vache folle, mais
maintenant
c'est autorisé.
On peut à nouveau. Ah, bien sûr, voilà. Et donc en fait, il y a eu une période où j'ai dit ah j'aimerais vraiment goûter la cervelle parce que je me souviens que mon grand-père mangeait de la cervelle. Enfin, il m'avait parlé de ce plat qui était un plat pour moi interdit, donc fascinant. Mais je n'en ai jamais mangé.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Camille Chamou?
Vous.
Avec plaisir, on vient.
Je vais être très très familiale, hein. Mais j'adore découvrir avec mes enfants et mon mec. J'aime beaucoup qu'on soit au même titre, enfin qu'on ne considère pas qu'il faut faire une nourriture pour enfants aux enfants. Donc je vais dire que, en fait, le truc chouette, c'est de partager des plats superbes avec ses enfants. D'ailleurs, mes enfants qui sont tout petits, je les ai emmenés à Clamato, le resto dont on parlait tout à l'heure. J'aime bien faire découvrir des choses à mes enfants. D'ailleurs, depuis qu'ils sont nés, ils mangent de tout.
Et c'est comme ça que naît la transmission. Hein.
Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'activité préférée des enfants, c'est quand même faire la cuisine avec leurs parents. C'est fou. Moi, pendant le confinement, j'ai testé plein d'activités. Et l'activité, mais qui marque les esprits et qui fait qu'il y a une solidarité enfant-parent, qu'on attend la même chose en même temps et qu'on est au même niveau, c'est la cuisine.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Camille Chamou?
À table. Parce que ma petite fille, elle a 19 mois et pendant tout le confinement, moi je criais, comme je vous disais, on était très nombreux et donc je criais à table, me rendant pas compte que j'avais une voix de crécelle et que c'était insupportable. Et un jour elle arrive, alors qu'elle parle très très mal, hein, elle dit en gros maman, papa, hein, et quelques trucs qu'on comprend pas. Et un jour elle arrive et elle fait à table. Et je me dis ah, d'accord, donc là, ça veut vraiment dire que je crie comme une charretière tous les jours pour mettre les enfants à table.
Eh bien, c'est l'heure, il est bientôt midi et demi, à table, comme dirait la fille de Camille Chamou. Merci d'avoir été avec nous.
Je
vous
en prie.
Vous avez été une très bonne vivante, c'est un plaisir. Et on vous retrouve donc membre du jury du Champs-Élysées Film Festival.
Oui, avec plaisir.
Et on retrouvera les références sur Internet. Merci à ma belle équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci d'être remonté enfin à la capitale, Yves Candebord.
Pizzaiolo, Yves Candebord.
Olivier Pouls, merci à vous, chers amis. Demain, c'est la fête des mères. Pensez-y, de jolis gâteaux. Pour les mamans, un beau financier aux cerises, par exemple. Tiens, je vous mettrai les références sur Europe1.fr. On embrasse toutes les mamans qui nous écoutent. Une pensée, tiens, pour Nadine, qui est la maman d'un de nos chefs d'antenne qui nous écoute. Et on pense à elle et on l'embrasse très fort. Et on pense à nos aînés, à nos mamans aînées aussi, qui sont un petit peu partout en France. Rendez-vous sur Europe1.fr pour les podcasts et les recettes, bien entendu. Soyez prudents, mais sortez, mangez, cuisinez. Et le journal de la rédaction arrive tout de suite. Bon week-end sur Europe 1 et à samedi, Justine.
Et à samedi, Laurent. Et n'oubliez pas de mettre les recettes pour nos mamans. On en a bien, bien besoin. Comme vous l'avez dit, dans quelques minutes, ce sera le journal de la mi-journée présenté aujourd'hui par François Claus. Et à 15h, Isabelle Morizet vous attend avec l'écrivain Guillaume Musso pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est midi 27.